Bonjour à tous et bienvenue sur Calade. Au sommaire de notre journal local et régional.
Journée morte le 7 mars, la mobilisation contre la réforme des retraites reprend. Avec nous, Laetitia Houssaï, secrétaire générale de l'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône. Élevage industriel, en finir avec la souffrance animale. Nous sommes accompagnés de Jean-Philippe Noël, journaliste pour le magazine 30 millions d'amis, qui nous révèle quelques propos de l'enquête menée sur le sujet de l'édition du magazine mars 2023. Et en conclusion, quatrième édition du festival Enou Bistronique, bienvenue en Beaujolais. Était venu nous en parler pour la troisième édition alors Christophe Barré de l'Inter Beaujolais. Calade, le journal. La gronde de la rue face à un gouvernement inflexible sur son projet de réforme des retraites qui stipule le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Nenni, les syndicats se disent prêts à tout pour contraindre l'exécutif à rétro-pédaler, quitte à bloquer le pays à coups de grève reconductibles dans tous les secteurs d'activité. Souvenez-vous, près de 300 000 Français avaient rejoint le mouvement des Gilets jaunes, parti des réseaux sociaux. La colère s'était coagulée autour de la hausse sur les carburants en 2018. En France, la mobilisation contre la réforme des retraites du gouvernement Fillon avait réuni le 12 octobre 2010 quelque 3,5 millions de personnes selon les organisateurs et 1,23 million selon la police. 26 août 1944, 1 million de personnes se rassemblent sur les Champs-Élysées pour acclamer le général de Gaulle au lendemain de la libération de Paris. Nous invite à nous rappeler le JDD. 24 mars 2013, entre 1,4 million selon les organisateurs et 300 000 opposants selon la police, défilent à Paris pour demander le retrait du projet de loi sur le mariage homosexuel. Lointain souvenir. La grève contre la réforme des retraites du début d'année a démarré en grande pompe, elle, le jeudi 19 janvier, pour une deuxième journée de mobilisation, le mardi 31 janvier, suivie d'un nouveau round, le 7 février. Mais c'était sans compter le samedi 11 février, la première fois que les Français sont appelés à descendre dans la rue un week-end. Et quand on jeudi 16 février, sans attendre une cinquième journée de grève et de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce 7 mars, dans la foulée, journée de grève et de manifestation, en parallèle au projet de réforme qui sera débattu au Sénat, les syndicats en appellent à une journée morte. Petit aparté, ces Français qui descendent dans la rue pour leur retraite ne le font pas uniquement pour ce problème, mais pour ce qu'ils estiment être une menace plus grande à la justice sociale. Cela fait partie d'une large bataille contre un système économique perçu comme injuste, nous dit l'éditorialiste David Pratt, relaté par BFM TV. Journée morte le 7 mars, la mobilisation contre la réforme des retraites reprend avant même le 7 mars, date choisie par l'intersyndicale pour mettre le pays à l'arrêt. Et elles se poursuivront ensuite. Rassemblement à 16h30, place de la Libération, le Promenoir à Villefranche-sur-Saône, à l'appel des organisations syndicales CGT de Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône. Extrait d'une discussion recueillie lors de la mobilisation du 16 février dernier avec Laetitia Houssaï, secrétaire générale de l'Union locale CGT Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône.
On est là, on lâche rien et puis on lâchera pas. Il y a encore des journées d'appel à mobilisation qui arrivent pour le 7 mars, suivie aussi de la journée internationale des droits de la femme, le 8 mars, où il y aura sûrement une convergence. Et c'est encore beau de voir que les gens se mobilisent encore, encore et encore sur leur jour de repos ou en grève tout simplement, ou par solidarité en fait, parce qu'on a nos retraités qui sont aussi ici. Donc c'est bien, on lâche rien, tout le monde est présent, personne ne veut cette réforme, donc voilà, le peuple parle. Alors on espère qu'en tout cas tous les collectifs existants en fait des commerçants de chaque ville prennent conscience aussi que c'est pas parce qu'on fait grève qu'on va pas acheter, hein, c'est pas parce qu'on bloque la ville qu'on va pas acheter, c'est parce que le système actuel fait qu'en fait nos salaires ne sont pas suffisamment bons pour pouvoir aussi dépenser tout le temps, et que du coup je pense que les commerçants s'en rendent compte aussi, je pense que c'est le gouvernement à lui de faire ce qu'il faut, et on espère en tout cas que les commerçants joueront le jeu, parce que c'est vraiment l'unité, la solidarité de tous qui fera qu'on pourra faire plier le gouvernement.
Journée morte ce 7 mars, à l'appel des intersyndicales pour la mobilisation contre la réforme des retraites. L'Union locale CGT de Villefranche-Beaujolais-Val-de-Saône vous donne rendez-vous à 16h30, place de la Libération. Le 8 mars, un pique-nique partagé revendicatif est organisé également place des Arts à Villefranche à partir de midi. Le 8 mars, également la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Un moment de mobilisation sera également organisé. Élevage industriel, en finir avec la souffrance animale, pour le magazine 30 millions d'amis, édition mars 2023. L'élevage industriel n'épargne pas la souffrance animale, qu'elle soit physique ou psychologique. Le bien-être animal est désormais au cœur des interrogations de nombreux consommateurs. Jean-Philippe Noël, journaliste pour le magazine 30 millions d'amis de mars 2023, nous révèle quelques propos de l'enquête menée sur le sujet. Il est joint par téléphone.
Ce mois-ci, nous avons consacré notre dossier à la souffrance animale dans les élevages. Dans les élevages aussi bien de volailles, de bovins, d'ovins que même de poissons, parce qu'en fait, même chez les poissons, on s'interroge sur le fait que les poissons en élevage subissent aussi des souffrances au quotidien. On parle bien sûr de l'élevage industriel qui représente 90, 95, voire 100% de l'élevage actuellement en France en fonction des espèces. C'est tout le paradoxe qu'on a avec notre rapport avec l'agriculture. On a en tête toujours une agriculture faite de petits éleveurs qui élèveraient dans leur cour quelques fermes, quelques cochons. On va présenter au salon de l'agriculture tout un ensemble de races régional en faisant, je dirais, croire un peu à nos concitoyens que la France serait pleine de cochons noirs dans le sud de la France, enfin des tas d'espèces différentes, de races différentes. En fait, ce qui est totalement faux, je crois que c'est 80% de la production est représentée en France par 2-3 races seulement. On va évidemment penser, par exemple, à la vache que tout le monde connaît, qui est la Primolstein, qui est la vache à faire du lait. Elle représente la quasi-totalité du lait que nous buvons actuellement.
Avec, évidemment, de la manipulation génétique.
Rien n'est plus du tout laissé au hasard. Pour prendre un exemple, nous prenons les lait de la vache. Une vache, en moyenne, produit aujourd'hui 12 000 litres de lait par an. Dans les années 60, elle en produisait 3 à 4 fois moins. Autant vous dire que c'est génétiquement, c'est en faisant des croisements, en accentuant toujours les catégories et en prenant toujours les meilleures vaches qui faisaient de plus en plus de lait, qu'on a réussi à faire ces véritables machines à faire du lait, au détriment de beaucoup d'autres choses. Au détriment surtout de leur squelette, ce qui fait qu'il y a des vaches qui souffrent énormément du dos, par exemple. D'autant plus que la plupart des vaches ont des mêmes géniteurs. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une dizaine de taureaux qui ont fabriqué pratiquement l'ensemble du cheptel de vaches Primolstein, mais ces taureaux ont amené avec eux leur tare génétique et on a ainsi des maladies qui se répètent de génération en génération qu'on n'arrive pas du tout à stopper en fait. Donc on a effectivement des animaux de plus en plus performants entre guillemets, mais de plus en plus fragiles. Et ce qui est terrible, c'est que cette course continue. C'est-à-dire que si vous regardez par exemple chez les fabricants, on va appeler ça les industriels du poulet, je lisais sur un de leurs sites qu'ils se réjouissaient qu'en 3 ans, ils avaient réussi à faire grossir les blancs de chaque poulet de 80 grammes supplémentaires. Les blancs seulement, mais en revanche pas la qualité des pattes des poulets dont ils se moquent royalement, ce qui fait qu'on a des poulets qui sont obèses et qui ne parviennent pratiquement plus à marcher sur leurs pattes. Ou quand ils deviennent adultes, leurs pattes trop fragiles se cassent sous leur poids. Ça fait que c'est des animaux qui ne bougent plus dans 80% des cas et qui parfois vont jusqu'à ramper pour pouvoir manger.
On a encore ces images, effectivement, de ces poulets concentrés dans des cages complètement exiguës.
Effectivement, et c'est toujours des cages qui existent toujours. Et ce qui est terrible, c'est que... Alors, comme le bien-être animal fait aujourd'hui partie de la connaissance de tout le monde et intéresse et questionne tout le monde, il y a des améliorations qui sont faites, des soi-disant améliorations, c'est-à-dire qu'on va mettre des perchoirs chez les poules qui pondent, chez les pondeuses, on va mettre des perchoirs, changer ni la taille de la cage, ni améliorer un certain confort. Ça fait qu'en fait, on dit, si on a des cages améliorées, on a fait mieux pour le perchoir parce que les poules, maintenant, elles peuvent se percher, mais elles ne peuvent pas plus ouvrir leurs ailes.
Ni leurs yeux, d'ailleurs, parce qu'elles sont souvent...
Et souvent leurs yeux, parce qu'elles vivent dans des conditions épouvantables. Mmh. Et puis, il y a des animaux que la législation a totalement passé à côté. Les élevages de lapins sont horribles. Les lapins qui sont élevés pour la nourriture sont incapables de se mettre debout dans leur cage et la plupart n'auront jamais fait un seul bond de leur vie. Alors, il y a des pays qui s'interrogent. Par exemple, je crois que la Belgique, en 2025, aura définitivement interdit les lapins en batterie. Bon, peut-il y avoir des améliorations qui sont possibles, mais c'est très, très lent.
Quelles sont les solutions, alors? Parce qu'on est très, très pessimiste, bien évidemment.
D'où viendront pas les solutions, malheureusement, ni des politiques, ni des grands syndicats agricoles. Ils se tiennent la main et je pense que ce sont des solutions à long terme qu'il faut trouver.
Le consommateur, alors, peut jouer.
Donc, le consommateur. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Par exemple, récemment, on a vu, entre guillemets, s'effondrer, baisser fortement la consommation des œufs de batterie. Il y a un moment, les gens n'ont plus voulu manger d'œufs en batterie. Et aujourd'hui, c'est même devenu un argument publicitaire. C'est les industriels ou c'est les mecs qui disent, maintenant, nous, on utilise des œufs de poules élevées en plein air. Et ça, c'est vraiment une conscience, c'est vraiment un choix qu'ont fait les consommateurs. Et je crois que pour toutes les consommations comme ça, issues du règne animal, du monde animal, c'est possible effectivement de faire ce choix.
Pour la Fondation 30 millions d'amis, il est à souligner qu'une très large majorité des Français souhaitent des changements profonds quant au traitement réservé aux animaux d'élevage. L'apparition du magazine 30 millions d'amis de mars 2023 dans vos kiosques. Et en conclusion à cette édition, pensez-y. Bientôt, le festival œnobistronique, bienvenue en Beaujonomie. Du 16 au 18 juin prochain, 4e édition pour un rendez-vous mets et dégustation chez un vigneron du Beaujolais. Une rencontre à ne pas manquer. Pour nous en parler, alors, Christophe Barré de l'Inter-Beaujolais, il était à notre micro lors de la 3e édition.
On a effectivement un public d'amateurs de vin, bien évidemment, qui vient nous rendre visite en Beaujolais, mais on a aussi des gastronomes épicuriens qui ont envie de bien manger et de partager un bon moment à table, et puis nos sorteurs, notamment des villes alentours, notamment Lyon, qui adore venir se ressourcer un petit peu et prendre l'air et le verre en Beaujolais. Donc un beau mix de public pour ces belles tablées qu'on espère encore belles cette année. Ouais.
Donc vous me donnez l'occasion effectivement de peut-être vous faire rappeler le concept de ce rendez-vous, de ce festival.
Tout à fait. Alors le festival, c'est assez simple comme concept. C'est donc les domaines du Beaujolais, maisons, caves et domaines. Les vignerons ouvrent leurs portes, accueillent lors de grandes tablées leurs convives. Donc un service à quatre mains avec le vigneron qui sert ses vins et qui accueille et un chef qui vient cuisiner pour l'occasion.
Alors le savant mélange, j'allais dire, ou pêle-mêle, je ne sais pas comment dire, effectivement, du vigneron, du chef cuisinier et puis de la rencontre peut-être, c'est ça ?
Tout à fait, c'est quand même le trait commun, c'est la rencontre, c'est aussi cet esprit de grande tablée qu'on va rechercher, c'est une rencontre, découvrir le métier de vigneron. Parfois on parle aux vignerons, ils disent oui mais j'ai pas grand chose à montrer, mais en fait ils se rendent pas compte de tout ce qu'ils ont à montrer, je crois, pour un public qui soit non initié ou initié, seulement aller déguster, aller visiter un domaine, aller comprendre comment on fait du vin, bah, c'est super. Et les gens ressortent ravis généralement. Et à côté de ça, évidemment, le partage de la table et le partage des moments et des animations qui peuvent être proposées notamment par les vignerons et qui peuvent aller au-delà de la dégustation.
Alors, au bon vouloir, effectivement, tout simplement du sud jusqu'au nord ou du nord du sud, comme on veut, est-ouest, du Beaujolais, hein, c'est ça. Hein, c'est celui qui aura envie d'accueillir.
C'est ça, c'est celui qui a envie d'accueillir, c'est ou vraiment
celle,
volontaire.
Ou celle. Celui ou celle, excusez-moi.
Exactement, puisqu'on a pas mal de vigneronnes quand même. Celui ou celle qui a envie d'accueillir, oui, c'est volontaire. Hein, les vignerons et vigneronnes domaines et maisons font acte pour participer. Donc, et effectivement, du nord au sud.
C'est aussi la découverte de notre territoire.
Oui, tout à fait. On aurait même pu l'appeler le festival œno-gastro-touristique ou œno-touristico-gastronomique.
Ou se rendre dans le vignoble Beaujolais pour la 4e édition du festival. Bienvenue en Beaujonomie. Du 16 au 18 juin, une cinquantaine de domaines, caves et maisons du Beaujolais s'associent à des chefs et concocteront ensemble un moment raffiné et certainement inoubliable pour ses convives, un programme de dégustation des vins, mais aussi de mets du terroir pour le festival œnobistronique en Beaujolais. Bienvenue en Beaujonomie du 16 au 18 juin prochain à l'initiative de l'Inter-Beaujolais. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Quelade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Quelade.